Bon, bonsoir à tous. C'est la dernière conférence du cycle qu'on organise en partenariat avec le laboratoire ERMA de l'université. Donc, je remercie encore Yves Lafont, directeur du laboratoire, d'avoir accepté de continuer ce séminaire avec nous. Nous avons initié avec Pascal Ballet. Puis, je remercie les étudiants présents et notre public. Donc, la dernière conférence va nous parler de l'univers d'Aristote et de Ptolémée, les fondements de la tradition cosmologique jusqu'à la révolution copernicienne. Donc par Michaela Malpangoto, CIRT, CNRS Observatoire de Paris. Donc je vais vous présenter en 2 minutes, Michaela, pour dire qui vous êtes. J'ai dit que j'avais remarqué que vous étiez jeune, donc vous êtes depuis 2 ans en France.
Oui, je suis. Je dois prendre.
Oui, si vous voulez.
Oui, je suis en France depuis 2 ans. De formation, je suis mathématicien, mais oui. En réalité, j'ai viré vers l'histoire des mathématiques, l'histoire des sciences plus en général, et l'histoire de l'astronomie. Donc maintenant, je suis membre de l'équipe d'histoire de l'astronomie du CIRT et notamment, je m'occupe plus spécifiquement de l'histoire de l'astronomie au XVe siècle, dans Regiomontanus, donc tout ce qui se passe avant Copernic et qui prépare le changement qui est à Copernic. Voilà.
Donc c'est bien, je n'ai pas besoin de lire le texte que vous m'aviez présenté, puisque vous vous présentez très bien vous-même.
Non.
Donc nous vous écoutons, Michaela. Merci beaucoup en tout cas. Et merci à Michel Blais d'avoir proposé que vous veniez chez nous. Merci.
Merci à vous de me donner l'occasion d'être ici. Bon, je le garde.
Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Quand vous êtes
non, je préfère rester debout. Oui, d'être ici, d'être avec vous et de vous parler de ce sujet. Moi, j'étais dans le train et je réfléchissais un peu à ce sujet et au fait qu'en fait, en 2009, on a célébré l'année mondiale de l'astronomie. Et là, on a célébré en fait 4 siècles de découvertes grandioses que les astronomes ont réalisées en faisant accomplir des progrès remarquables à la connaissance de cet univers encore mystérieux, encore effrayant, où nous vivons en occupant une place de plus en plus petite, si je peux dire. Eh bien, tout cela en fait a été rendu possible depuis quand Galilée, en 1609, a pour la première fois pointé une lunette vers le ciel. Et il a donc déclenché une façon, une manière tout à fait nouvelle d'interroger le ciel et, si vous voulez, même d'explorer l'univers. Parce qu'à cette époque-là, la lunette, c'était le seul moyen qu'on avait d'explorer de près l'univers. Alors, ce geste de Galilée a véritablement changé l'histoire de l'astronomie depuis, mais à mon avis, cette célébration risque un peu de laisser dans l'ombre, moi je dirais, une partie considérable de l'histoire de la pensée humaine, dans laquelle l'astronomie, la physique, les sciences modernes, en quelque mesure, plongent leurs racines, et à laquelle l'astronomie, la science moderne, doit, à mon avis, quand même, en quelque mesure, se considérer redevable. Alors, pourquoi je parle d'une partie considérable de l'histoire de la pensée humaine? Parce qu'on vient de célébrer 4 siècles d'histoire, et là, moi, je parle de 20 siècles. 20 siècles pendant lesquels, à un certain moment, on est en 1543, se trouvent à coexister 2 systèmes du monde différents, antithétiques, opposés, mais équivalents. Tous les deux étaient capables de rendre compte des mêmes phénomènes observés et donc ils avaient tous les deux le même degré de possibilité et de probabilité d'être, de fournir la vraie image du monde. En effet, à cette époque-là, donc avant la lunette de Galilée, si vous voulez, aucun instrument et aucun artifice pouvait permettre de trancher sur la question, donc de déterminer lequel de ces 2 systèmes du monde était supérieur, était meilleur que l'autre. Et en effet, soit le système de la tradition, donc d'Aristote et de Ptolémée, soit le système de Copernic, n'étaient que des, on pourrait dire, des pures constructions mentales engendrées par la raison humaine afin de rendre compte des phénomènes célestes et des mouvements de ces corps célestes que l'on pouvait observer exclusivement à l'aide des seules potentialités de l'œil humain. Il n'y avait pas encore la lunette à l'époque de Copernic. Donc, c'est sur cette partie considérable de l'histoire de la pensée que je voudrais, dont je voudrais parler un petit peu aujourd'hui. Alors, pourquoi 20 siècles d'abord ? Parce qu'on a, d'accord, à partir de 1609, 10, 4 siècles jusqu'à aujourd'hui, mais avant 20 siècles, ça veut dire qu'on remonte au 4e siècle, avant notre ère. Et c'est en effet au 4e siècle avant notre ère que Aristote, pour la première fois, en fait, rend réel un système du monde que jusque-là avait resté purement abstrait, géométrique, immatériel. Alors, dans cette manière-là, Aristote va édifier un univers, une conception du monde, une vision du monde qui répond à la fois aux exigences de la raison et à celles des sens. Et donc, il est destiné à s'imposer en Grèce, mais aussi dans les cultures qui vont dominer, dans les civilités qui vont dominer la culture au-delà, comme, et ça c'est important, comme la seule représentation possible du monde et de l'univers. Alors, quelles sont les caractéristiques principales de cet univers édifié par Aristote? Alors d'abord, l'univers d'Aristote est immense, mais fini, clos, limité et de forme sphérique. Alors là, c'est une image qui date du XVIIe siècle, en fait c'est pas très, très authentique, mais moi je l'aime bien parce que nous donne un peu l'idée de la physicité, de la pesanteur même de cet univers. Alors, immense, mais fini et de forme sphérique. Le vide n'y existe pas, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Pas de vide. La Terre, elle aussi de forme sphérique, occupe le centre de cet univers et elle reste toujours absolument immobile. Alors, ce monde est divisé en deux régions. Deux régions qui diffèrent de manière, on pourrait dire, substantielle, en fait, soit pour les éléments, la matière dont elles sont formées, soit pour les mouvements et les principes qui régissent ces deux parties de cet univers. Alors, on a la région terrestre ou sublunaire, qui est formée de quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. C'est le monde du devenir et de la corruptibilité, donc tout a une naissance et une mort, on le voit bien, c'est le monde où nous vivons. Et pour cette partie de l'univers, Aristote a établi des précises lois physiques qui règlent les mouvements. Donc. Et en particulier, celle d'après laquelle c'est la principale, les mouvements naturels des corps simples sont sont rectilignes, vers le haut ou vers le bas, en tout cas vers le lieu naturel de l'élément en question. Ensuite, la région supralunaire, donc la région céleste, eh bien, elle était formée d'une autre substance, l'éther, conçue par Aristote comme la seule capable de conférer à cette partie de l'univers ses caractéristiques propres de perfection et incorruptibilité, des caractéristiques qui sont confirmées aussi par l'évidence de l'observation sensible qui atteste que, je cite Aristote, dans tout le cours du temps passé, aucun changement n'a jamais été constaté, ni dans l'ensemble du ciel le plus extérieur, ni dans aucune de ses propres parties. Alors, pour cette partie du monde, cette partie céleste du monde, Aristote a également établi des lois qui règlent les mouvements. Alors, d'abord, les seuls mouvements possibles dans une telle perfection sont rigoureusement circulaires et uniformes. Donc, ils se réalisent à une vitesse constante. Ensuite, chaque corps simple, c'est-à-dire chaque sphère céleste ne peut qu'avoir un seul mouvement simple comme son propre et naturel. Et en vertu de la concentricité et de la contiguïté des sphères célestes, alors chaque sphère transmet par contact ses propres mouvements à la sphère inférieure qui le reçoit comme preternaturales, donc préternaturelles. Alors, pourquoi je parle de sphères célestes? Là, on ne les voit pas. D'abord, l'observation du ciel nous montre sept corps célestes qui se meuvent de manière irrégulière. Ils changent continuellement leur position réciproque et leur vitesse, et certains d'entre eux sont observés parfois progresser vers l'Orient, parfois rétrograder vers l'Occident. C'est pourquoi ils sont appelés étoiles errantes, ou pour reprendre l'origine grecque du terme, qui veut dire la même chose, planète. Alors, afin de rendre compte de cette variété, de cette irrégularité de leur mouvement, Aristote a attribué à chaque planète une propre sphère éthérée, à l'intérieur de laquelle la planète peut accomplir ses mouvements de manière, là c'est un peu délicat mais on n'entre pas dans les détails, de manière à ne pas les transmettre aux sphères adjacentes, donc aux sphères inférieures ou à la sphère supérieure. Alors, quelles sont ces sept planètes? On aura, bon, d'abord, la sphère qui porte la planète qui est la plus proche de la Terre, donc c'est la sphère de la Lune, qui est aussi la limite entre les mondes élémentaires, donc le monde terrestre et le monde céleste. Ensuite, on a la sphère de Mercure, celle de Vénus, la sphère du Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Voilà les sept sphères planétaires. Ensuite, si on regarde le ciel, on voit bien qu'au-delà de ces sept corps, on peut remarquer l'existence d'une multitude d'étoiles, lesquelles, par contre, se meuvent toutes à la même vitesse et se maintiennent toujours à une distance constante, on pourrait dire les unes... des autres, c'est-à-dire qu'elles ne changent jamais leur position réciproque et elles gardent toujours la même forme. Alors, Aristote conclut que toutes ces étoiles sont fixées sur une seule, une même sphère céleste éthérée. La voici. Alors, cette sphère... on le voit dans cette image, est la limite extérieure de cet univers immense mais fini, donc sphérique. Elle prend le nom de sphère des étoiles fixes, elle prendra par la suite le nom de firmament aussi, mais en raison du rôle qu'elle a dans les mouvements des corps célestes, elle est aussi appelée premier mobile, car elle possède comme mouvement, qui lui est propre et naturel, la rotation diurne. La rotation diurne, simple, parfaite, du levant au couchant, qu'elle transmet par contact, cette fois-ci, oui, aux sphères inférieures, donc aux sept sphères planétaires, de manière à entraîner cette masse éthérée céleste entière dans cette rotation vertigineuse qui s'accomplit seulement en 24 heures autour du centre du tout qui est la Terre immobile. Donc voilà pour avoir un peu une idée. Alors, dans cette conception, on voit bien que Aristote a le mérite d'avoir considéré l'univers d'abord dans son ensemble et comme un système global des sphères corporelles doué d'une unité telle à former un ensemble cohérent à partir des parties les plus élémentaires jusqu'aux parties les plus élevées, donc à la sphère des étoiles fixes. Alors, l'élément fondamental grâce auquel une telle structure de l'univers et du monde peut prendre forme est effectivement la cohésion rigide de toutes ces parties. Et cela en vertu notamment de cette concentricité, de cette continuité, de ce contact entre les sphères planétaires et la sphère des étoiles fixes. Alors, c'est ce même élément qui, au cours du temps, va se révéler être trop contraignant, surtout par rapport au mouvement des planètes, dont ce système d'Aristote se révélera être incapable de rendre compte de certains phénomènes observés. Alors, pour que l'explication des apparences observées dans le ciel acquiert plus d'importance et devienne un élément fondamental dans l'activité de l'astronome, il faut qu'un petit changement, qu'un changement ait lieu, et donc il faut qu'une astronomie plus technique trouve sa naissance. Une astronomie plus technique qui, tout en respectant la structure cosmologique de l'univers donné, établi par Aristote, se donne aussi pour tâche celle de rendre compte au mieux des phénomènes observés, donc des mouvements observés des corps célestes. Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire que cette astronomie plus technique, bon, d'abord, c'est le résultat d'un changement culturel plus profond, plus large, et d'une certaine manière, elle remonte à toujours Aristote, parce qu'en effet, bon, Aristote, je vous l'ai dit, il est actif au IVe siècle avant notre ère, il est actif à Athènes. Et à un certain moment de sa vie, il est appelé en Macédonie pour assurer l'éducation du fils du roi de Macédonie. Ce fils du roi de Macédonie s'appelle Alexandre et il deviendra Alexandre le Grand. Je pense qu'en français, vous l'appelez comme ça aussi. Voilà. Alors, c'est grâce à Alexandre le Grand qu'on on a une expansion territoriale importante et on a, par contre, aussi la naissance d'une, si vous voulez, d'une culture, on pourrait dire, entre guillemets, hellénistique, je ne sais pas si je peux dire nouvelle, mais bon, qui est un peu le produit de l'échange entre les différentes cultures, donc la grecque et des autres cultures qui entrent en contact, et qui change de centre, si vous voulez, parce qu'auparavant, à l'époque d'Aristote, le centre culturel était Athènes, mais non, avec la culture hellénistique, le centre culturel se déplace et il devient Alexandrie en Égypte. C'est là qu'on a deux institutions importantes, le musée et la bibliothèque, et c'est là qu'on voit l'activité des noms que normalement on peut associer aux mathématiques, on pourrait dire, que l'on appelle les mathématiques grecques, donc Euclide avec ses éléments, Apollonius et plus tard Ptolémée. Alors, c'est à Alexandrie qu'on peut voir la naissance d'une astronomie qui consacre plus d'attention à l'observation, donc cette astronomie plus technique dont je vous ai un peu parlé et dont on a besoin. Alors, c'est avec les astronomes alexandrins, notamment on peut parler de Timocharis, Hipparque et par la suite Ptolémée, qui commence cette tradition d'observation, mais surtout de comparaison des données d'observation. Et cette comparaison des données d'observation met peu à peu en évidence deux phénomènes qui ne peuvent pas s'expliquer dans le contexte rigide des sphères homocentriques, ou si vous voulez concentriques, de l'univers d'Aristote qu'on a vu tout à l'heure. Alors, quel est le premier de ces deux problèmes? Alors, quand l'on observe le mouvement du soleil au cours de l'année, bon, on le voit, si vous voulez, sur l'écran des étoiles fixes. Donc, on le voit se déplacer sur les constellations du zodiaque. Et ce que l'on voit à partir des données des observations des astronomes alexandrins, c'est que le soleil parfois se déplace plus rapidement et parfois il se déplace plus lentement. Alors, on ne met pas en cause la validité du système imposé, établi, donné par Aristote pour régler toute la machinerie du monde. Et notamment, là, on ne peut pas mettre en cause trois assumptions importantes, selon lesquelles l'orbite du Soleil est un cercle, centré sur la Terre et sur lequel le Soleil, disait Aristote, doit se mouvoir à vitesse constante, donc de manière uniforme. Alors, comment on peut résoudre cette anomalie solaire, donc le fait que le Soleil, en réalité, on le voit, il ne se bouge pas de manière à vitesse constante sur son cercle? Il faut adopter une solution de compromis, un peu. Et les astronomes alexandrins modifient alors quoi? La structure interne de la sphère éthérée, céleste, qui porte le Soleil. Alors, on a une sphère, toujours une sphère totale, comme voulait Aristote, on la voit un peu en bleu, centrée sur la Terre, mais à l'intérieur de cette sphère, on introduit ce qu'on peut appeler, ce qui s'appelle un orbe excentrique, c'est-à-dire c'est un orbe, donc une couche éthérée, toujours de forme sphérique, mais qui n'est plus centré sur la Terre, mais il est centré sur un autre point qui est un peu éloigné, donc excentrique par rapport à la Terre. Donc là, à partir de là, le nom de orbe excentrique. À l'intérieur de cette, donc, c'est cet orbe excentrique qui porte le Soleil. À l'intérieur duquel, alors maintenant, le Soleil parcourt toujours un chemin parfaitement circulaire, parce que la forme de cet orbe est circulaire, toujours à vitesse constante par rapport au centre géométrique de ce cercle. Et donc le résultat est que, si l'on le regarde de la Terre, on peut voir bien qu'il y a les changements et les variations que l'on a remarquées à partir de l'observation. C'est-à-dire que dans des temps... je vais là, c'est plus pratique... Alors, si on considère deux intervalles de temps égaux, on aura que dans la partie supérieure, où le Soleil est plus éloigné de la Terre, là, dans cet intervalle de temps, il a parcouru un chemin plus long. Donc, il se meut plus rapidement. Par contre, dans la partie inférieure, même intervalle de temps, même non, mais intervalle de temps égal, le chemin est plus court et donc là, le Soleil est vu depuis la Terre se mouvoir à une vitesse mineure. Donc, il va plus lentement. Oh, bon. C'est pour après. Merci. Voilà, donc, l'introduction de cette compromis entre les sphères qui voulait Aristote, centrées sur la Terre et éthérées, et une partie qui change un peu la chose, a permis aux astronomes alexandrins de résoudre l'anomalie solaire. Ensuite, les orbes excentriques sont introduits pour toutes les autres planètes, donc on les trouve dans la conception des sphères, de toutes les sphères planétaires, mais pour le planète, on a un autre problème, que la simple introduction de l'orbe excentrique ne peut pas résoudre. Et c'est le phénomène des rétrogradations, c'est-à-dire que, voilà. Alors, normalement, les planètes, on exclut le Soleil et la Lune, donc les autres cinq planètes, on les voit toujours projetées sur l'écran des étoiles fixes, sur les constellations du zodiaque, progresser vers l'est, donc elles s'émeuvent de l'ouest vers l'est. Mais il y a des moments où on les voit s'arrêter un peu, après changer de direction. À ce moment-là, ils ont un mouvement de rétrogradation, donc elles se meuvent vers l'ouest. Après, on a un arrêt et ensuite on recommence à progresser vers l'est. Et ce qui est important à remarquer, c'est que au moment où la planète se trouve à changer de direction, donc elle est rétrograde vers l'ouest, elle est aussi plus lumineuse. Ce qui veut dire, à partir des lois élémentaires de l'optique, que apparemment, quand elle est rétrograde, la planète est aussi plus proche de l'observateur terrestre, donc elle est plus proche de la Terre. Alors là, avec simplement l'introduction d'un orbe excentrique, on ne peut pas l'expliquer. Alors, qu'est-ce qu'ils font les astronomes alexandrins? Ce sont en réalité Apollonius et Hipparque qui font cela, et tout cela nous est un peu raconté, expliqué techniquement aussi par la suite par Ptolémée. Ils introduisent le cercle, l'épicycle et les déférents. Alors là, toujours, on a l'exigence de respecter le principe selon lequel les mouvements des corps célestes doivent être circulaires et uniformes. Alors, on introduit une composition, une combinaison de mouvements circulaires et uniformes. Alors, on aura que la planète est portée par le petit cercle, qui est l'épicycle, et sur lequel elle se meut à vitesse constante par rapport à son centre, et le centre de cet épicycle est porté par un autre cercle à vitesse constante. Et ce cercle est au centre de l'orbe excentrique, donc il est centré sur le point gris et non sur la Terre. Alors, comment cela peut permettre d'expliquer le phénomène dont je viens de vous parler, donc le phénomène de rétrogradation? Alors, si l'on regarde la planète, quand elle est dans la partie extérieure, on peut dire, de l'orbe excentrique, on voit que la combinaison des deux vitesses de rotation est telle que le résultat est que l'on voit depuis la Terre la planète progresser vers l'est, tranquillement. Ensuite, on a, au moment où on peut tirer la ligne de tangence entre la Terre et l'épicycle, là, on a le moment d'arrêt, et ensuite, la combinaison des deux vitesses de l'épicycle et du déférent est telle que l'on voit la planète changer de direction, donc rétrograder vers l'ouest. Et bon, ensuite, ligne de tangence, on a à nouveau un arrêt, et à nouveau on passe dans la partie supérieure, et donc on a à nouveau, on recommence, la planète recommence à progresser vers l'est. Et il faut bien le remarquer, au moment où on a la rétrogradation, la planète se trouve dans la partie inférieure, donc elle est aussi vraiment physiquement plus proche de la Terre, de l'observateur terrestre. Donc on a expliqué ce phénomène pour lequel on change de direction et en même temps on augmente la luminosité de la planète avec cette solution. Alors, je vous disais, ça c'est une petite remarque, je vous disais que c'est Ptolémée qui nous reporte, si vous voulez, tout ça, donc la solution des épicycles et des déférents remonte à Apollonius et à Hipparque, mais il faut bien remarquer aussi que normalement, quand on parle de Ptolémée, on parle de l'Almageste, et c'est vrai que dans l'Almageste, Ptolémée nous explique tout cela, tous les systèmes planétaires, de manière purement géométrique. Donc, il ne fait pas référence aux orbes excentriques et tout ça. Mais Ptolémée est auteur aussi d'un autre ouvrage, ce sont les hypothèses des planètes, qui ne sont pas parvenues en langue grecque, ils sont parvenus par la voie des Arabes et des traductions faites au siècle suivant. Et c'est là que Ptolémée introduit ce système géométrique d'épicycle, des déférents un peu immatériels, à l'intérieur d'orbes, des orbes excentriques. Donc il nous donne une vision plus cosmologique, donc plus réelle, physique, matérielle de la chose, de l'organisation des mouvements planétaires. Alors, cela en ce qui concerne les planètes. Mais, alors, on avait vu que la solution, je ne sais pas si j'ai une image. Non. Bon. On avait vu que la solution cosmologique, initialement adoptée par Aristote, était la conséquence logique d'une association naturelle entre des objets et des mouvements visibles, à savoir l'évidence visuelle qui nous faisait remarquer 8 corps célestes et 8 mouvements, a amené le philosophe à leur associer, on l'avait vu dans le schéma précédent, autant de sphères célestes. Alors, cette correspondance ne pourra plus être univoque au siècle suivant, parce qu'on va remarquer dans le ciel, et on va voir que les mouvements seront plus nombreux que le corps céleste visible et observé. Alors, c'est Ptolémée, en effet, qui peut remarquer ça de manière un petit peu plus techniquement définie, parce qu'il peut disposer des observations, des données d'observation faites par ses prédécesseurs alexandrins. Alors, pour comprendre cela, il faut introduire des cercles célestes de référence, donc des coordonnées célestes. Alors, normalement, si on regarde la sphère céleste, on peut avoir un premier cercle de référence qui est l'équateur. Il n'est que, si l'on prend le plan qui passe par l'équateur terrestre, on le prolonge jusqu'à la sphère des étoiles fixes, on a l'équateur céleste. Et son axe est l'axe du monde prolongé jusqu'aux étoiles fixes. Ensuite, on a un autre grand cercle, l'écliptique, qui est un grand cercle incliné d'environ 23 degrés sur l'équateur et qui a son axe, qui est à son tour incliné sur l'axe céleste, donc sur l'axe de l'équateur. Et cette écliptique, bon, il faut quand même le remarquer, n'est que le parcours projeté sur les étoiles fixes du Soleil au cours de sa révolution annuelle. Intercession entre écliptique et équateur, donc le point là, je ne sais pas si j'ai mis un nom, non, je n'ai pas mis. Donc, ce point là et de l'autre côté ce point là, ce sont les points des équinoxes. Alors, qu'est-ce qu'il peut remarquer Ptolémée ? Ptolémée, il voit que à l'époque de Timocharis, si l'on prend l'exemple d'une étoile fixe, je pense qu'en français ça s'appelle l'Épi, donc c'est l'étoile la plus lumineuse de la constellation de la Vierge. Alors, à l'époque de Timocharis, l'Épi se trouvait à 8 degrés avant l'équinoxe. Environ un siècle après, à l'époque d'Hipparque, la même étoile était à 6 degrés avant l'équinoxe, donc elle avait bougé. Et à l'époque de Ptolémée lui-même, elle se trouvait à 3 degrés de l'équinoxe. Alors, vous pouvez bien remarquer que, donc, au cours du temps, on n'a que la distance, si on peut l'appeler comme ça, de l'étoile à l'écliptique n'a pas changé. Mais ce qui change, c'est sa position. Donc, c'est comme si elle bouger sur un cercle parallèle à l'écliptique. Et cela est vrai, bon, était vrai d'après les données que, dont Ptolémée pouvait disposer pour toutes les étoiles. Donc, cela veut dire que le firmament, la sphère des étoiles fixes, est due d'un autre mouvement au-delà, en plus que la seule rotation diurne. Ça représente un problème parce qu'on a dit que d'après la cosmologie d'Aristote, chaque sphère céleste ne peut qu'avoir un seul mouvement simple qui lui est propre et naturel. Après, il peut recevoir le mouvement des sphères supérieures, mais elle-même, donc la sphère des étoiles fixes, ne peut avoir comme mouvement qui lui sont propres deux mouvements, la rotation diurne et ce nouveau mouvement qui sera appelé plus tard mouvement de précession. Alors, la seule solution que Ptolémée peut envisager dans le respect constant des principes de la cosmologie donnée, établie par Aristote, est celui de, alors là on avait l'univers d'Aristote, c'est celui de supposer l'existence d'une sphère céleste ultérieure placée au-dessus du firmament, dépourvue des astres, donc elle ne porte aucun corps céleste, mais douée d'un mouvement qu'elle transmet aux sphères inférieures. Alors, à ce moment-là, on n'a que l'univers, donc comme elle ne porte aucun corps céleste, elle échappe complètement à notre vue. Donc on la voit simplement parce qu'on voit sur le firmament le résultat du mouvement qu'elle transmet. Alors l'univers qui était l'univers d'Aristote à 8 sphères célestes en mouvement devient maintenant l'univers de Ptolémée a 9 sphères en mouvement. Où ? Alors, la neuvième sphère devient maintenant le premier mobile qui transmet à la huitième et aux sept sphères planétaires inférieures la rotation diurne qui s'accomplit du levant au couchant autour de l'axe du monde, qui est l'axe de l'équateur qu'on a vu. Et donc, en faisant, donc, qu'elle transmet, en faisant accomplir à l'univers entier, à cette masse céleste entière, cette rotation vertigineuse en 24 heures. Ensuite, à la huitième sphère, le firmament, donc la sphère des étoiles fixes, est assigné le nouveau mouvement de précession que Ptolémée croit se réaliser. Du couchant au levant, donc on change de direction, autour de l'axe de l'écliptique, et donc qui se transmet aux sept sphères planétaires, et lui aussi, en faisant accomplir cette rotation au globe céleste entier, cette rotation, cette fois-ci très lente, parce qu'elle s'accomplit en 36 000 ans. Donc on avait 24 heures pour la rotation diurne, et là, on a une période de 36 000 ans. Alors, voici un peu, en général, l'évolution que la conception que le système du monde a en arrivant à Ptolémée. On peut dire que, au cours des siècles suivants, et notamment là, grâce maintenant à la contribution des astronomes arabes, parce qu'à un moment donné, à partir du 7e, 8e siècle, on assiste à l'expansion culturelle du monde arabe islamique, qui prend un peu la relève de la culture grecque. Et en particulier, chez les Arabes, on a une grande attention consacrée à l'observation du ciel. Donc on trouve des observatoires fixes avec des grands instruments éparpillés un peu dans tous les domaines des Arabes. Et les domaines des Arabes vont à partir de la péninsule arabe, ils passent pour toutes les côtes septentrionales de l'Afrique, ils arrivent jusqu'à l'Espagne, y compris la Sicile. Et donc, on n'a que le résultat de cette activité d'observation est l'enregistrement et donc la transmission de valeurs et des données d'observation au cours de siècles. Et c'est notamment en Espagne, et c'est à Tolède en particulier, qu'au XIIIe siècle, sous le roi Alphonse X de Castille, qu'il y a une collaboration entre des astronomes arabes et des astronomes latins, et que ce groupe d'astronomes donc se met au travail sur la comparaison des données, des valeurs d'observation cumulées au cours de 16 siècles à ce moment-là, parce qu'on part des observations enregistrées à Alexandrie au 3e siècle avant notre ère, et on arrive jusqu'au 2e, 13e siècle. Cela met ces astronomes face à un problème nouveau, en réalité à deux problèmes nouveaux. Alors d'abord, l'inclinaison de l'écliptique sur l'équateur avait diminué et la durée de l'année au cours du temps variait de manière, si vous voulez, irrégulière, c'est-à-dire que parfois elle augmentait, parfois elle diminuait. Alors cela ne pouvait pas s'expliquer seulement à travers la précession de Ptolémée, parce que d'abord la précession de Ptolémée était, comme la tradition voulait, une rotation accomplie à vitesse constante. Donc cela pouvait expliquer, oui, une variation de la durée de l'année, mais toujours dans le même sens, donc toujours une diminution. Alors que là, ce que l'on observait, c'est que parfois il y avait une diminution, parfois une augmentation. Alors là, il aurait fallu changer la vitesse, donc rendre irrégulière cette rotation, ce qui n'était pas possible d'après le principe de la cosmologie traditionnelle. Deuxième chose, la précession de Ptolémée était une rotation autour de l'axe de l'écliptique, mais cet axe de l'écliptique était supposé rester toujours au même endroit, donc ne bougeait pas. Alors cela ne pouvait pas expliquer une variation aussi d'inclinaison de l'écliptique qui a le plan perpendiculaire à cet axe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, à nouveau, qu'on est face à un nouveau mouvement qu'on repère en regardant les étoiles fixes, et donc on repère aussi sur les planètes. nouveau mouvement, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Bah, on adopte la même solution qu'avait déjà adoptée Ptolémée, et donc on ajoute une sphère céleste ultérieure, toujours dépourvue des astres, donc elle ne porte, donc elle toujours échappe à notre observation, toujours transparente et toujours cristalline. Alors maintenant, on a que à cette dernière dixième sphère de l'univers, bon, celui-là, il devient à nouveau, il devient le premier mobile pour vous de la rotation diurne qu'elle transmet à la neuvième, à la sphère des étoiles fixes, à cette sphère planétaire. Ensuite, neuvième sphère à laquelle est assigné le mouvement de précession de Ptolémée, et ensuite, huitième sphère, celle des étoiles fixes, à laquelle maintenant est assigné le nouveau mouvement qu'on a remarqué et qui est le mouvement appelé mouvement de trépidation ou d'accès RC. Je vous épargne la description, ça c'est un peu compliqué, si vous voulez, on en discute après. Alors, ce qui m'intéresse remarquer, c'est que on arrive ainsi, à partir du Moyen-Âge latin aussi, à partir du IIIe siècle également, à envisager un univers à 10 sphères en mouvement. Les 7 sphères qui portent les planètes, la 8e sphère qui porte les étoiles fixes, et 2 sphères supérieures qui ne portent aucun corps céleste et qui ne sont censées qu'à transmettre leur mouvement à l'univers entier et aux sphères inférieures. Alors, celle-là, c'est la solution cosmologique qui va dominer, qui est la solution traditionnelle, qui remonte à Aristote et qui va poursuivre encore pour toute la culture du Moyen-Âge latin. Ce qui est vrai, c'est qu'au cours des siècles, l'astronomie va connaître des périodes de crise profonde, grave, car ce modèle de trépidation se révèle en effet inadéquate, incapable de rendre compte d'autres phénomènes observés. Il nous suffit de rappeler ici un peu le problème posé par la durée de l'année, qui reste encore un problème, en dépit des solutions du mouvement de précession et de trépidation, avec les nombreuses tentatives de réforme du calendrier. Alors, cette insatisfaction des astronomes croissante va culminer au XVIe siècle avec la proposition ou solution révolutionnaire avancée par Nicolas Copernic. Alors, il est unanimement accepté que la publication en 1543 du De Revolutionibus Orbium Celestium, c'est-à-dire des 6 livres sur les révolutions des orbes célestes, a obligé les astronomes à niveau européen à se confronter avec son contenu. Ce qui a ouvert une période de réflexion et de renouvellement, je dirais, sans précédent dans l'histoire de la cosmologie ou de l'astronomie. Et ce qui est important à remarquer, c'est qu'à côté de la proposition héliocentrique qui correspondait à un choix radical, l'ouvrage de Copernic offrait par sa richesse plusieurs possibilités d'exploitation, allant de l'amélioration du calcul à travers les tables, on pense par exemple aux tables pruteniques élaborées par Erasme Reynolds et publiées en 1551, jusqu'à la mise au point de nouveaux systèmes du monde. Alors, c'est selon cette dernière approche qui s'en sert la contribution de l'astronome bolognais Giovanni Antonio Magini. Ça se comprend ou je dois l'écrire? Ça se comprend. Alors, Giovanni Antonio Magini qui publie en 1589 vous le voyez là, les 9 celestium orbium teoriche congruentes cum observationibus Nicolai Copernici, c'est-à-dire les nouvelles théories des orbes célestes en accord avec les observations, pas le système du monde, les observations de Copernic. Alors, dans cet ouvrage, Magini accepte l'analyse copernicienne des mouvements de la Terre et de son axe, mais il délocalise, il transfère ces mêmes mouvements sur autant de sphères supérieures au firmament. Donc il arrive à envisager un univers géostatique et géocentrique, donc on est dans le plein respect de la tradition, à 11 sphères en mouvement. Voilà. Ou, maintenant c'est la 11e sphère qui devient le premier mobile. Ensuite on a une 10e et une 9e sphère qui ont comme mouvement qui leur sont propres chacune l'une des deux mouvements de libération copernicienne, c'est-à-dire les librations que Copernic attribuait à l'axe de la Terre et par lequel il remplaçait la trépidation de la tradition précédente. Et ensuite, on a le firmament, donc la 8e sphère, avec à nouveau la précession de Ptolémée. Donc, voici l'univers envisagé par Magini. Alors, on peut bien remarquer, moi je dirais, un emploi instrumental des résultats coperniciens de la part de Magini, lequel les extrayant ces résultats de leur contexte naturel, c'est-à-dire l'hypothèse héliocentrique, le système héliocentrique, les a assujettis aux règles, aux principes, aux lois de l'astronomie traditionnelle. Des principes et non seulement des principes, mais une astronomie, une cosmologie, dont la force de persuasion s'était renforcée au cours de siècles de manière très forte. Et cette force de persuasion, ce pouvoir de persuasion de ce système de la tradition peut être ici, à mon avis, bien témoigné par la voix du jésuite du collège romain Christophe Clavius. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas trop, Clavius était un personnage d'envergure, il faisait autorité en ce qui concerne l'astronomie à son époque, et il a été activement engagé dans la réorganisation de l'enseignement des disciplines mathématiques et aussi l'astronomie dans les collèges des jésuites. Et donc, dans ce cadre-là, il est aussi auteur de plusieurs manuels employés pour l'enseignement. On peut rappeler son commentaire aux éléments d'Euclide, mais aussi son commentaire à la sphère de Sacro Bosco. Alors, la sphère de Sacro Bosco, c'est un ouvrage composé par Sacro Bosco, justement, au Moyen-Âge, qui, à partir du XIVe siècle, est devenu le manuel traditionnellement, normalement, usuellement, habituellement employé dans l'enseignement de l'astronomie élémentaire dans les universités. Et donc, il reste encore un manuel d'enseignement de l'astronomie élémentaire dans les universités à l'époque de Clavius. Donc, justement, Clavius, pendant son cours, il commentait encore la sphère de Sacro Bosco. Et alors, il publie à partir de 1570 ce texte, son commentaire, avec pas moins de 12 réimpressions jusqu'à 1612. Et ces réimpressions sont continuellement mises à jour. Alors, dans ce cadre, dans ce contexte de mise à jour continuelle de ce texte, de ce commentaire, on n'a que seulement à partir de la réimpression de ce texte de 1593, Clavius, pour la première fois, fait le nom de Copernic. Donc on a publication du De Revolutionibus 1543, Clavius, à partir de 1570, ne fait même pas le nom de Copernic. Et quand Magini publie ses résultats, Clavius, alors il trouve le courage de nommer aussi Copernic. D'abord, Clavius reconnaît en Copernic le nouveau Ptolémée. Le nouveau Ptolémée qui, il dit, à l'époque moderne, a finalement rendu possible la solution des problèmes posés par les mouvements des étoiles fixes et les mouvements globaux de l'univers. Parce que Copernic a, dit Clavius, finalement identifié de manière plus exacte les quatre mouvements différents qui entraînent le globe céleste entier. les quatre qu'on les avait vus sur les quatre sphères supérieures de Maginot, donc les deux librations, la précession et la rotation diurne. Cependant, si la communauté scientifique, donc Clavius dans son texte se fait un peu le porte-parole, accepte de bon gré, même avec reconnaissance, les résultats de Copernic, il dit « Libenter recipimus et amplectimur », eh bien, avec autant de conviction et de décision, elle refuse « Omnino reicimus », le système du monde que Copernic a proposé, a élaboré pour rendre compte de ces mêmes résultats. En effet, Copernic, dira Clavius, explique le phénomène céleste à travers un système nouveau du monde fondé sur des hypothèses complètement libres, on pourrait dire même dégagées des conditions de centralité et d'immobilité de la Terre, des hypothèses dont la nécessité inéluctable et indiscutable s'était renforcée là aussi au cours de siècles à travers un mélange complexe d'argumentations d'ordre à la fois physique, philosophique, métaphysique, pour ne pas dire aussi théologique, mais bon, c'est la même chose que métaphysique si vous voulez. Alors tout cela explique les raisons qui amènent Clavius à refuser le système héliocentrique, le système copernicien du monde qu'il définit. Je l'ai mis peut-être. Oui. Qu'il définit absurde, opposé à l'opinion commune des hommes, pour ne pas dire téméraire. Et alors, dans le même passage, cet adverbe, prudenter, prudemment, par lequel Clavius introduit la contribution de Maginot, met en effet en évidence le contraste net entre les extravagances de Copernic et la sagesse de Maginot qui, vous le voyez au fond, rejectis isce hypothesibus, donc après avoir rejeté ces hypothèses du mouvement de la Terre et de son axe, a concilié ces quatre mouvements avec les périodes mêmes, les mêmes établies par Copernic, avec les hypothèses de Clavius consolidées et universellement partagées par les philosophes et les astronomes. Donc, des hypothèses en raison desquelles s'impose pour Clavius la nécessité stricte d'adopter la solution de Maginot, donc de supposer trois sphères supérieures au firmament, de manière que la solution à 11 sphères en mouvement représente pour Clavius la seule voie possible, opportune, en réalité il dit, pour sauver et rendre compte des phénomènes célestes, il dit « certa ratione », donc de manière certaine. Alors, voici la position de Clavius, voici la position de la tradition, et on le sait bien, ce même dogmatisme, donc duquel dérive ici l'univocité de la solution à 11 sphères en mouvement, n'avait déjà plus conditionné Copernic. Copernic qui avait construit un système nouveau du monde qui était capable de sauver les phénomènes et de rendre compte des mouvements de corps célestes. Alors là, il faut bien le remarquer, il faut bien le retenir, la portée révolutionnaire de l'univers proposé par Copernic, à mon avis au moins, ne se limite pas au seul changement de place entre la Terre et le Soleil. Ce sont plutôt ses implications cosmologique et physique aussi, dont la portée est véritablement révolutionnaire, dans la mesure où Copernic propose un système, une vision du monde qui est, pour plusieurs aspects, pas dans tous les aspects, mais pour plusieurs aspects importants, en contraste, donc opposé au système de la tradition. Alors, vous ne voyez pas double, c'est le même système. Alors, le système de Copernic peut finalement s'alléger des trois sphères supérieures au firmament et surtout des quatre mouvements qu'elle transmettait au globe céleste entier. Ensuite, le Soleil arrache à la Terre sa place centrale et il va, lui, occuper le centre du monde, de l'univers. La Terre, eh ben, la Terre devient l'une des sept planètes, placée avec la Lune qui lui tourne autour, dans une quatrième sphère céleste. Alors, elle perd, ça c'est évident, sa place centrale comme centre immobile du monde, mais elle acquiert un rôle actif, si vous voulez, un rôle vraiment actif dans le dynamisme, dans le mouvement céleste. Alors, maintenant Copernic assigne à la Terre plusieurs mouvements qui lui sont propres en même temps, à la fois. Et donc, c'est le seul globe terrestre qui va devenir, dans la conception de Copernic, le seul responsable de l'alternance des saisons, dont auparavant c'était la révolution du Soleil qui était le responsable, maintenant c'est la Terre qui a sa révolution dans sa sphère centrée dans le Soleil qui devient responsable du parcours annuel, donc de l'alternance des saisons, de la rotation diurne, parce que c'est son axe qui tourne cette fois-ci en 24 heures sur elle-même, de la précession des équinoxes, bon, elle a aussi les deux librations qu'on a vues chez Magini, mais aussi... Donc là, tous les phénomènes que je vous ai évoqués, donc la précession, les librations et la rotation diurne, c'est la Terre qui est responsable maintenant, mais c'était auparavant les sphères supérieures au firmament qui étaient responsables. Donc là, c'est le grand changement. Maintenant, la masse éthérée reste immobile. C'est la Terre qui tourne. Et ensuite, dans ce mouvement, c'est la Terre qui devient aussi le responsable des rétrogradations planétaires, celles dont on a parlé pour introduire des modifications des astronomes alexandrins. Alors, quand on a parlé des rétrogradations de planètes, on a vu que, on peut dire chez Ptolémée, il était devenu le résultat de la combinaison de deux mouvements circulaires et uniformes, celui de la planète sur son épicycle, plus la rotation du centre de l'épicycle sur le cercle déférent excentrique. Chez Copernic, les rétrogradations planétaires sont encore le résultat de la combinaison de deux mouvements circulaires et uniformes, mais cette fois-ci, ces deux mouvements sont, d'une part, le mouvement de la planète dans sa propre sphère, donc autour du Soleil, et la révolution annuelle de la Terre dans sa propre sphère céleste, autour du Soleil, elle aussi. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que cela va donner. C'est un peu qualitatif, mais à mon avis, ça rend l'idée. Alors, quand la Terre se trouve dans la position 1, l'observateur terrestre voit la planète projetée dans la position 1 en rouge. On a au-delà toujours notre écran des étoiles fixes. Ensuite, la Terre passe à la position 2, et donc l'observateur voit la planète projetée dans la position 2. Ce qui veut dire que quand la Terre est passée de 1 à 2, eh ben, l'observateur voit la planète passer de 1 en rouge à 2 en rouge, donc progresser vers l'est. Très bien. Ensuite, la Terre passe, et là je le fais toujours, voilà. Ensuite, la Terre passe à la position 3, et l'on voit la planète projetée dans la position 3, donc on a encore que de 2 à 3, la planète, on la voit progresser vers l'est. En 3, on a le moment de station. La planète est vue s'arrêter un peu. Ensuite, la Terre va dans la position 4 et 5. Et entre-temps, on voit la planète dans la position 4 qui est au milieu, entre 3 et 5. Et donc là, entre 3 et 5, on voit la planète rétrograder vers l'ouest. Elle a changé de direction. Et là, si vous le remarquez bien, c'est entre les positions de la Terre 3 et 5 que physiquement... Vraiment, la distance entre la planète et la Terre est mineure. Donc, physiquement, on peut vraiment expliquer ce rapprochement de la planète et la Terre dans son augmentation de luminosité pendant la rétrogradation. En 5, on a le mouvement d'arrêt et ensuite, bon, on passe en 6, on recommence à progresser vers l'est et en 7. Donc, voilà le changement qu'on a. Donc, le mouvement de la Terre devient le seul responsable, bon, avec un mouvement qui, en tout cas, redevient circulaire uniforme, sans épicycle, sans combinaison, du mouvement de la planète. Donc, le mouvement de la Terre devient le responsable aussi du phénomène de rétrogradation planétaire. Voilà. Alors, si on revient à l'image générale, donc à la comparaison de l'image, on a que chez Copernic, bon, le firmament existe toujours. Il existe toujours comme sphère la plus extérieure, donc qui limite l'univers, qui reste toujours un univers limité de forme sphérique chez Copernic. Sur cette dernière sphère sont toujours fixées les étoiles, dont les mouvements perçus par l'observateur terrestre ne sont plus réels, comme il était auparavant. Mais ils sont plutôt le résultat de ce qui apparaît à la vue d'un observateur placé sur une Terre en mouvement. Par exemple, la rotation diurne. On avait de l'autre côté que c'était la rotation vraie du firmament à déterminer le lever et le coucher des étoiles et des planètes. Maintenant, bon, les étoiles fixes sont... La sphère est immobile, la Terre tourne en 24 heures et cela provoque, donne l'impression que ce soit donc du lever et du coucher des planètes et des étoiles fixes. Alors, à côté, bon, là on a un peu essayé de décrire très brièvement les aspects un peu plus astronomiques, mais à côté des aspects plus strictement astronomiques et aussi cosmologiques, les changements apportés par Copernic à l'image du monde ont des conséquences bien profondes qui impliquent par exemple le rapport entre l'homme et Dieu et qui modifient la place et le rôle que l'homme s'était donné. C'était assigné dans l'univers. Alors, juste pour évoquer quelques-unes de ces conséquences les plus banales qui peuvent venir à l'esprit. Bon, d'abord, la disparition des sphères supérieures au firmament emporte en quelque mesure aussi le lieu que jusque-là était assigné aux anges, aux saints et qui était destiné à devenir le lieu des élus. Donc, l'Empyrée, avec Copernic, doit se redessiner. L'homme, bah, ça on le comprend bien, perd son premier rôle au centre d'un univers qui avait été créé pour lui. La Terre, là on a un autre problème. Alors, la Terre entourée de la Lune, placée dans une sphère céleste, introduit forcément la corruptibilité du monde sublunaire, du monde terrestre, dans la perfection et dans l'immutabilité du monde éthéré, du monde céleste. Donc cela entame nettement la distinction nette qu'on voit de l'autre côté, donc dans le système de la tradition, entre le monde corruptible, le monde du devenir, le monde sublunaire, et l'incorruptibilité du monde céleste qui était au-dessus de la Lune. Et dernière chose qu'on peut rappeler, c'est que la Terre, maintenant pourvue de plusieurs mouvements, parmi lesquels la rotation diurne, d'après la physique d'Aristote, qui avait été acceptée jusque-là et qui sera acceptée encore au-delà, cette rotation vertigineuse assignée à la Terre aurait dû nécessairement comporter des conséquences absurdes. Par exemple, on avait que, d'après la tradition, la Terre était immobile parce que si on se trouve, c'est une évidence sensible, si on jette une pierre ou une flèche vers le haut, elle retombe sur nous. Ce qui veut dire que si, entre-temps, on suppose le mouvement de la Terre, et notamment une rotation en toute vitesse, parce qu'elle s'accomplit en 24 heures, bah, je jette ma pierre, et entre-temps, la Terre a bougé. Ce qui veut dire que la pierre, elle tombe de l'autre côté, donc elle ne tombe pas sur moi. En plus, si on regarde les oiseaux, les nuages qui sont dans l'air, c'est évident pour la tradition. Bah, si on le regarde, bon, la Terre est immobile, je le regarde se mouvoir. Mais si la Terre était en mouvement, on devrait les voir toujours se mouvoir du côté opposé par rapport à celui de la rotation de la Terre. Et ensuite, une rotation si vertigineuse de la Terre sur elle-même devait nécessairement impliquer la destruction des édifices. C'est pas possible qu'une Terre elle bouge et les édifices restent là. Voilà. Donc, l'hypothèse de... Donc, cela, c'était les assumptions qui avaient été introduites par Aristote et qui s'étaient renforcées jusqu'à Copernic et qui sont... Là, c'était introduit pour prouver l'immobilité de la Terre, mais non, donc sont employés pour dire, bon, si c'était vrai l'hypothèse de Copernic, on aurait plein d'absurdités que l'on n'a pas. Alors, vous voyez bien que, en fait, l'acceptation de l'univers proposé par Copernic, d'une part, voulait dire, d'autre part, impliquer une réorganisation radicale des principes, des lois qui, jusque-là, avaient réglé l'univers entier, de la Terre aux étoiles fixes. Et cela, selon une vision qui était la vision de la tradition d'Aristote et de Ptolémée, qui était une tradition, une vision fortement, moi je dirais, hiérarchisée, en tout cas cohérente, de toutes les parties, des plus élémentaires aux plus élevées. Alors, pour que cela ait lieu, pour que une nouvelle physique, une nouvelle cosmologie puisse naître, eh ben, il s'impose inévitablement la nécessité de se libérer au préalable des conceptions qui dataient de 20 siècles, on revient à notre 20 siècles dont je vous ai parlé au début. Et donc, en effet, toute la philosophie, toute la physique, toute la cosmologie devait être démantelée, soit dans leur contenu, dans leurs principes, soit dans leur méthode. Donc, il faudra, pour conclure un peu brièvement, les observations de Tycho Brahe, qui n'étaient pas faites avec une lunette, hein, ils étaient des observations traditionnelles. Simplement, il a des instruments fixes, donc de grande dimension, dont la précision est meilleure par rapport aux instruments portables qu'on employait, par exemple, au Moyen-Âge. Donc, il faudra les observations de Tycho Brahe, qui remarque aussi l'apparition de nouvelles étoiles, ce qui met en discussion cette partie céleste du monde qui ne changeait jamais. On a vu tout à l'heure les mots d'Aristote qui disaient « bon, c'est parfait parce qu'aucun changement n'a jamais eu lieu ». Bon, là, on a quelques changements, on a des étoiles qui apparaissent. Il faudra les observations faites grâce à la lunette de Galilée qui nous révèle par exemple que le paysage de la Lune est un paysage tout à fait semblable à celui de la Terre, ce qui ne pouvait pas exister si on avait un monde parfait dans les ciels et un monde différent sur la Terre. Il faudra la naissance d'une nouvelle méthode de recherche, avec l'expérimentation, donc avec l'observation des phénomènes observés et répétés à partir de laquelle on déduit les lois de la physique. Il faudra que la dynamique qui n'existait pas auparavant ait naissance, donc une branche nouvelle de la physique doit naître aussi et doit se définir le concept de force, d'attraction, par exemple, entre les corps qui n'existait pas. On avait jusque-là, et même encore avec Copernic, on a que ces sphères qui sont un peu rigides, on peut les imaginer comme des sphères en bois dans lesquelles on plante, on fixe la planète, et ce sont elles qui se meuvent et donc elles transportent rigidement la planète. Donc le concept de force et d'attraction entre les corps doit naître. Donc enfin, il faudra une véritable révolution scientifique pour que la nouvelle science, si vous voulez l'appeler la science classique, en tout cas une nouvelle science puisse naître. Cette révolution scientifique, bon, va prendre environ, moi je dirais 4 siècles, parce qu'on a une période de préparation où on n'a pas de faits saillants et une période d'évolution plus en vitesse, et plus avec des événements plus remarquables, plus visibles. Cette évolution va donc culminer, je dirais, avec Newton, quand finalement sera édifiée une seule physique, à la fois terrestre et céleste, et quand donc finalement les mêmes lois vont régler soit la pomme qui tombe de l'arbre, soit le mouvement de planètes les uns autour des autres. Et donc sur ça, moi, je peux terminer.
Merci à vous, merci d'avoir rendu simple quelque chose qui est complexe. Merci beaucoup, vraiment. Y a-t-il des questions dans la salle ?
Donc, dans le monde ptoléméen, pour parler ainsi, quel statut on accordait aux comètes et aux à ce qu'ils n'étaient pas les astres réguliers, en quelque sorte ?
Ils étaient quelque chose qui vivait, si on peut dire comme ça, dans la partie sublunaire. Ils étaient considérés comme des vapeurs qui arrivaient jusqu'à la sphère du feu, qui était la plus extérieure, et leur mouvement est expliqué parce que, et là, parce qu'on n'avait que le mouvement de la sphère de la Lune entraînait en quelque mesure la sphère du feu, et donc là-dedans, ces vapeurs, ils pouvaient se mouvoir. Voilà, donc c'était quelque chose de... c'était des phénomènes sublunaires.
Vous avez tout compris.
Dans le modèle de Copernic, est-ce qu'il introduit une différence de centre au niveau des orbites des planètes ? Parce que dans le modèle pour l'instant présenté, il n'y a pas d'irrégularité dans le déplacement de la planète. Or, ça, c'est observable. D'autant plus dans les rétrogressions, elles n'ont pas toutes la même amplitude. Donc, est-ce qu'il introduit aussi le fait que les centres des orbites ne sont pas centrés exactement au centre du Soleil ou... Est-ce que ça arrive après ? Parce que c'était ça aurait pu être un argument vraiment qui aurait pu attaquer réellement ce système-là aussi.
Ça, franchement, je ne sais pas. Je ne suis pas une experte de Copernic, donc oui, j'ai une... Voilà. Donc, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Désolée.
C'est une question d'astronome, Eric.
En fait, je rebondis sur la question précédente. Cette question des orbites, à quel moment est-on passé d'une représentation sphérique des orbites ou circulaire des orbites à une représentation elliptique ? C'est la même question, je présume.
Oui, c'est la même question. En effet, merci à votre question parce qu'il introduit des excentriques coperniques. Et en fait, bon, on passe au modèle elliptique avec Kepler. Ce sera Kepler qui peut disposer des données des observations de Tycho Brahe, justement plus précises, et qui change un peu aussi l'attitude parce que, de l'astronome. Parce que jusqu'à Copernic, à partir de la tradition la plus ancienne, on n'a que... On l'a bien vu avec l'exemple que vous avez donné du passage entre Aristote et Ptolémée. On a une conception un peu philosophique qui est derrière, donc une vision du monde, et on emploie les observations, donc on fait des changements, mais les changements qu'on introduit restent dans le cadre de cette image de l'univers. Et Copernic fait un peu la même chose. Donc, si on regarde le De Revolutionibus, on trouve qu'il... Bon, d'abord, il n'était pas un astronome qui faisait des observations. Ils avaient des instruments très, très, très élémentaires. Et plutôt, il emploie les données des observations pour confirmer son modèle. Donc, vous voyez, il y a un peu cette approche-là. Ce qui change avec, justement, Kepler... c'est qu'on part des données des observations, on n'a que les planètes ont 7 positions, et on va essayer de trouver une courbe qui explique ce mouvement. Et là, bon, c'est compliqué, mais ça arrive l'idée de l'écliptique. Et ça me rappelle la réponse à votre question. Donc il y avait, oui, une excentricité, parce qu'en fait, si on considère le résultat d'un mouvement épicycle déférent, trop petit, on va obtenir, si on combine bien les choses, quelque chose qui ressemble à une ellipse. Donc il devait forcément avoir une excentricité.
Allez-y, monsieur. Merci. Alors, je vais reposer une question qui se greffe sur les deux autres, là, à moins que la réponse ait déjà été donnée sans que je l'ai comprise. si une planète, lorsqu'elle décrit ses épicycles, et si elle est collée sur une sphère, il me semble que la logique voudrait que lorsqu'une sphère tourne, elle garde son mouvement. Or, sans aller jusqu'à une représentation mécanique ou mécaniste que nous avons, nous, d'un objet qui est lancé, qui est lourd à arrêter et lourd à changer de direction, comment est-ce qu'il pouvait imaginer que les sphères porteuses pouvaient brusquement s'arrêter d'avancer, partir en arrière et repartir? C'est ça qui est dur à avaler.
Oui, justement, il n'y avait pas d'arrêt brusque. Il y avait de... Comment dire de...
Oui, une déformation de la sphère, alors, à ce moment-là.
Même pas du tout. Déformation, si vous regardez la... Oui, mais si on imagine la sphère totale, concentrique, oui. Et là-dedans, on fait un trou circulaire. Et dans ce... Qui est matériel, parce que ce n'est pas un trou vide. Et dans ce trou matériel... On met, voilà, registrez pas, hein. Et on met, qui est là, on met un autre trou qui est le petit bicycle, et après on fait tourner les choses rigidement. Là, on obtient un peu, c'est pour vous donner un peu une idée.
C'était assez complexe.
Oui, oui.
Qui a levé la main?
Une remarque là. C'est parce que la Terre, elle était supposée ronde, elle n'était pas supposée plate dans le système là. C'est un a priori qu'ils avaient. Ils connaissaient que la Terre était ronde.
C'était pas un a priori, c'était là aussi, on remonte à Aristote pour avoir l'évidence. Il part d'une preuve sensible de la forme sphérique. D'abord, pendant les éclipses de Lune, Aristote lui-même dit que l'éclipse de Lune se produit parce que la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune, et l'ombre de la Terre projetée sur la Lune a une forme circulaire. Cela veut dire, évidemment, dit Aristote, que la Terre a une forme sphérique. Deuxième chose, là, ça, je n'arrive jamais à l'expliquer très bien, mais je vais essayer. Alors, si on considère un homme placé sur une plage qui regarde un navire qui s'éloigne dans la mer. Alors, nous, on a la plage et notre navire qui s'éloigne dans la mer. Alors, cet homme placé sur la plage, il va voir soit la coque, si je ne me trompe pas, soit l'extrémité supérieure du mât du navire. J'ai dit une bêtise. Je vous l'ai dit, ça ne vient jamais bien, ça. Il ne voit pas la coque, mais il voit seulement l'arbre. Alors, il voit ça et il ne voit pas ça. Alors que si on considère un autre observateur placé sur une montagne, eh ben, lui, oui, il voit soit la coque, soit l'arbre. Ça veut dire que là, ce qui empêche cette vision-là, c'est une courbe, c'est que la surface sphérique, là, il fait une courbe qui nous empêche la vision. Donc, cela confirme... Mais c'est joli. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme sphérique.
Et puis, la deuxième question, c'était sur la Lune, là, qui changeait de forme. C'était la projection. Comment ils expliquaient le croissant qui changeait, qui était pleine Lune, Lune sombre, les croissants de Lune, tout ça.
Là,
c'est un peu compliqué. Hein,
là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué.
Attendez, parce que...
Non, si on place la Terre au centre du monde et la Lune tourne autour de la Terre, le Soleil quelque part, et donc la Lune par rapport à ce Soleil sera soit à l'opposé de la Terre, soit entre la Terre et la Lune. Donc lorsqu'elle est entre la Terre et la Lune, depuis la Terre, on voit la face sombre, non éclairée par le Soleil. Lorsque la Terre est à l'opposé du Soleil, on verra la Lune entière, pleine Lune, et entre les deux, les quartiers. Donc non, de ce point de vue-là, il y avait, entre les deux modèles, il n'y a pas de...
Peut-être plus qu'une question, c'est peut-être un autre contexte. Ça a vraiment nourri l'imaginaire et nourri la poésie, ces conceptions. Je suis aussi italianiste. Enfin, moi, tous les Italiens ont ces images dans la tête grâce à Dante. Quand ils disent le premier mobile, pour eux, ça leur parle vraiment. C'est là où... l'univers entier prend son mouvement, mais c'est aussi l'amour. Donc, c'est et puis, donc, y a toute une, là-dedans, c'est alimenté par toute une poésie, par tout un imaginaire, la musique des sphères qui remonte à Pythagore et tout ça. Voilà, c'est justement pour habiller un peu de musique et de poésie ces visions.
Bon, merci. On a eu un chant pythagoricien déjà ici par un conférencier. Oui.
Oui, je voulais savoir à quelle époque les instruments, enfin les lunettes se développant progressivement, on a commencé à prendre conscience de la dimension du système solaire, enfin la dimension concrète, en fait, de distance, etc.
Précisément, je ne sais pas. Je m'arrête à Galilée, moi, honnêtement, oui, je ne vais pas au-delà.
Il avait une lunette un peu courte.
Oui, voilà. Donc,
L'astronomie suscite toujours des questions. Monsieur, vous vouliez faire part de vos commentaires ?
Oui. Allez-y. Oui, bon, non, j'avais cru que la question, j'ai mal compris parce que mon téléphone a sonné pendant ce temps-là. J'ai cru que c'était une remarque concernant la dimension de la Terre. Or, je sais qu'à l'époque, alors peut-être ptolémaïque, en mesurant la verticalité des ombres en différents endroits, ils avaient pu à peu près calculer les dimensions. Ils ne s'étaient pas trompés de beaucoup, d'ailleurs. Oui. Alors, pour la distance de la Lune et du Soleil, alors ça, c'est autre chose.
Oui, mais là aussi, c'est Aristarque qui nous donne des méthodes géométriques, en effet, de trigonométrie élémentaire. Et qui mesure les distances Terre, Lune, Soleil en fonction de, je pense, du diamètre de la Terre, quelque chose comme ça.
Oui, donc
là aussi, ça a été fait dans l'Antiquité.
Je pense à la projection des ombres, la dimension des ombres projetées, ça va permettre de faire des petits la triangulation, quelque chose comme ça.
Oui, bien sûr.
Bon, je vois que nous avons des amateurs éclairés, hein. Voilà, merci à tous, bonne soirée. Merci Michaela, merci. Au revoir. Merci.